On m'entend bien. Oui, je m'entends même moi-même très bien. Donc, le micro est bien allumé. Vous allez bien? Gloire à Dieu. Si vous voulez, on va tout simplement se tenir debout quelques instants, tout simplement pour un petit temps de prière où on va remettre le temps que nous allons prendre à la parole entre les mains du Seigneur. Est-ce que vous croyez qu'on a besoin de prier avant de prendre la parole? La parole est à l'image de l'homme, pour qu'on comprenne, mais c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, elle nous a été transmise à nous, mais c'est la parole de Dieu. Et sans l'Esprit de Dieu, eh bien, cette parole-là va être difficile à capter. Ceci étant dit, inclinons la tête et remettons ce temps. Seigneur, tout simplement, ô Dieu, remettre ce temps entre tes mains où nous allons prendre, nous allons aborder ta parole. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de toi. Vide-nous de nous-mêmes et remplis-nous de toi à travers la parole. Seigneur, donne à ton peuple de la nourriture ce soir, que ton peuple puisse prendre un repas spirituel. Je me remets entre tes mains, Seigneur, ainsi, Seigneur, que les bien-aimés qui sont ici en présentiel, ceux qui écoutent par le truchement des différentes plateformes et ceux qui nous écouteront en différé. Ta bonne main et ta miséricorde reposent sur nous. J'ai prié dans le nom de Jésus. Et le peuple dit Amen. Donc, vous pouvez prendre place. Ce soir, on va commencer. Vous savez que depuis plusieurs temps, je vous entretiens. On prend un temps pour regarder des psaumes, différents psaumes. Et j'ai décidé, un peu abruptement, après certaines réflexions, de quitter les psaumes juste pour un temps. Et j'y reviendrai. Pourquoi? Parce que le livre des psaumes, c'est le plus long livre de la Bible. Il y en a 150, à part les autres, les 3-4 psaumes sont disséminés ailleurs, qui sont des psaumes aussi dans l'Ancien Testament. Pause des psaumes pour pas que ça devienne trop lourd. Mais on va étudier un autre livre qu'on va prendre et qu'on va faire avancer un peu comme je fais le lundi. Avec le livre aux Éphésiens, je le ferai le mercredi avec le livre de Jonas. Le livre de Jonas dans l'Ancien Testament, un livre qui peut nous apprendre beaucoup de choses, est un livre qui est riche en exemples qu'on peut regarder dans le Nouveau Testament, avoir ce regard-là sur l'Ancien Testament pour voir un peu ce que nos contemporains ont vécu, pour comprendre que la grâce de Dieu, qui n'était pas aussi visible qu'elle l'a été par l'œuvre de Christ à la croix, existait tout de même. Et que Dieu prenait soin de son peuple tout de même. D'ailleurs, on va parler de la nourriture, compassion de Dieu via qui a eu pour Jonas. Le livre nous entretient de cela, et le livre nous entretient un peu des fautes de Jonas, de cette obéissance. Je sais que tous ceux qui sont ici, on est 100% obéissants, sauf moi peut-être, mais on va regarder les fautes que Jonas a commises et comment Dieu l'a redressé. Comment il l'a amené à prendre conscience, à le faire réfléchir. On va prendre cela à chaque fois où je serai cédulé le mercredi et on va avancer. Donc, aujourd'hui, on va regarder tout simplement l'entrée en matière. On va prendre le texte tantôt, mais pour le premier 10-15 minutes, je vous ferai une mise en contexte, une table des matières, si vous voulez, de ce qu'on va regarder. Le livre de Jonas va nous parler de l'attitude. Le livre de Jonas va nous parler de l'attitude d'un prophète, va nous parler de l'attitude de Dieu, via le prophète, via le peuple de la grande ville de Ninive. Et ça devrait être un bon exemple pour nous. Quand j'ai donné le cours sur l'Apocalypse le lundi, qu'on m'avait demandé en milieu de pandémie, il y a quelqu'un, à un moment donné, qui a écrit, et je crois que c'est là que le frère Lionel a fermé un peu le robinet, je vous dirais. Il y a quelqu'un qui écoutait un peu ce que j'étais en train de parler, visiblement quelqu'un qui n'avait pas cette connaissance-là de l'Évangile, et il a écrit à propos de ce que je déclarais, il a écrit, et je vous le donne textuellement, parce que ma femme me l'avait donné tel quel, le commentaire était du style « Wow, il en a fumé du bon, ce gars-là! » En parlant d'un peu de ce que je donnais comme référent, de ce que je donnais comme les choses qui étaient à venir. Et prenant cet exemple-là, nous qui connaissons l'Évangile, nous qui sommes chrétiens, souvent on va regarder ces gens-là un peu, on va dire, c'est des pseudo-croyants qui cliquent partout et ils ont tombé sur quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Et ma femme m'avait rassuré, elle me dit, il y a une sœur, je ne vous la nommerai pas, elle n'est pas ici, elle dit, elle a pris vigoureusement ta défense sur le net. Mais vous savez une chose, quand on ne comprend pas quelque chose, on peut avoir de telles réflexions. On peut avoir de telles réflexions. Cette personne-là, je ne sais pas si c'était un homme ou une femme, qui a porté ce regard-là sur ce que j'étais en train de dire, a porté un jugement sur ce que j'étais en train de dire et a dit, hey, il en a fumé du bon, cet homme-là. Et un peu à cette façon-là, pas de la même façon naturellement, Jonas a dit, mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire là? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire là? Et vous savez une chose, quand on va faire un peu, que je vais rentrer un peu plus approfondi dans le texte, on va voir que c'est un peu notre nature à nous aussi, quand nous ne comprenons pas. On a tendance à porter des jugements hâtifs. Si on ne dit pas « Amen », on peut dire « Ouch ». Vous savez, je vous donne toujours le choix entre les deux. Donc, on va regarder dans le livre de Jonas un peu les différentes options que Jonas a eues, les différentes façons où Dieu a pris pour redresser Jonas. Est-ce que vous croyez que quelquefois on a besoin d'être redressé? C'est pas du vin, c'est du jus. C'est juste que j'étais en rencontre avant mon enseignement et j'ai amené mon jus. Si ça l'indispose des gens, je pourrais prendre de l'eau la prochaine fois. Donc, on va regarder maintenant pour débuter. De toute façon, on va rentrer dans le texte. On va regarder, un, qui était Jonas? Je crois que pour faire l'entièreté de la chose. Et dans quelle période Jonas a dû interagir? Donc, la chose est, Jonas, le livre de Jonas vient après les grands prophètes, après Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, et après Daniel et Osée, Joël, Amos, Abdias vont venir. En ce sens, on a Jonas qui vient et Michée juste avant. L'application qu'on va regarder. L'œuvre de Dieu dans le cœur de Jonas. Est-ce que vous croyez que Jonas était plus désobéissant que vous et moi? Est-ce que vous croyez que Jonas est un mauvais prophète? Est-ce que vous croyez que Jonas était un homme qui ne se souciait pas de la parole de Dieu? L'application qu'on va faire du livre tout au long de l'étude doit être la suivante. L'œuvre de Dieu dans le cœur du serviteur est aussi importante que le résultat de son service. L'œuvre de Dieu dans le cœur du serviteur, de n'importe quel serviteur servant, est aussi importante que, en fait, ce qu'il lui donne à faire, que le résultat de ce service-là. D'accord? Et ce principe-là, dans le livre de Jonas, va être bien développé. Ce principe-là où Dieu se soucie de ce qui se passe dans le cœur du serviteur, autant que la résultat de son service. Dans l'Église, je pense que tous ceux qui servent dans l'Église, tous ceux qui ont à cœur de servir dans l'Église, tous ceux qui servent avec passion dans les Églises, on souhaite voir le fruit. À quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un que ça lui tente de prêcher dans le désert? On aime mieux avoir des résultats, voire c'est même encourageant d'avoir des résultats. Si je prends à ma propre exemple, pendant ce temps de pandémie, peut-être que j'ai été plus affecté que d'autres personnes. Parce que je suis un homme de présentiel, on va dire ça de cette façon-là. Peut-être, je ne dis pas que les autres serviteurs n'ont pas été affectés, mais peut-être que moi, ça m'a plus secoué que d'autres personnes. Parce que les gens savent que j'aime pas vraiment les médias sociaux. D'ailleurs, au téléphone, j'essaie de jamais parler très longtemps. Je donne des rendez-vous en présentiel. Je veux voir la gestuelle de la personne. Je veux voir la personne. Ce confinement-là m'a peut-être un peu plus affecté que certains autres, parce qu'on a tous notre caractère. Et lorsque je préparais certaines choses, je me suis aperçu à la mesure que la pandémie a avancé, où je donnais mes plaintes devant le Seigneur, mes récriminations, où je disais au Seigneur, « Mais Seigneur, ton Église va se disloquer, Seigneur. » Il y a des pensées qui ont commencé à se faire jour dans ma pensée. Il y a des lectures que j'ai faites dans la Bible que je ne voyais plus de la même façon. Il y a des idées que j'avais que le Seigneur a renversées sur certaines choses. Mais il y a quelque chose qui demeure. Tout le monde aime avoir des résultats. Et le Seigneur m'a fait des petits, je vais dire ça comme ça, des petits clins d'œil pendant ce temps-là difficile. Où un homme a appelé à l'Église, un homme que j'avais parlé il y a des années, dont la sœur Patricia me dit, telle personne a appelé, il s'appelle Gérald, il a laissé son numéro, il aimerait que tu le rappelles. Et j'ai eu une bonne communion quand j'ai parlé avec cet homme-là. Cet homme-là s'est converti, il est ferme dans une église. Et ensuite, et plus tard, ma femme m'a dit qu'une dame, toujours dans le temps de pandémie, lui avait écrit pour lui dire, « Dites merci à votre époux. » Elle dit, « Je ne l'ai pas trouvé sur Facebook. » C'est certain, je ne suis pas sur Facebook. Elle dit, « Comment est-ce qu'elle a fait pour arriver jusqu'à mon épouse? » Je ne connais pas les réseaux sociaux, là. Mais ça lui a pris du temps intérieur. Elle dit, « Dites merci à votre époux et dites-lui que tout ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a enseigné pendant le temps qu'on était isolés. » Et ma femme me montre la photo. Je ne connais absolument pas cette personne-là. En tout cas, pas de visu, mais... C'est sûr qu'elle me dit où je travaillais, elle me dit quand est-ce qu'elle travaillait avec moi, et ensuite, donc, j'ai travaillé avec elle. Et elle lui a dit, dites-lui que je pense souvent à ce qu'il m'a dit, et que la semaine prochaine, dans deux semaines, je ne me rappelle plus, elle dit, je me fais baptiser à mon église. Donc, c'est des petits clins d'œil comme ça que Dieu nous fait au milieu de notre service, mais tout le monde s'attend à ce qu'un service soit productif. Tout le monde aime voir le fruit de son travail. Hommes et femmes qui sont sauvés, qui sont dans le service, le zèle, aussi motivant qu'ils peuvent être, ne doit pas nous aveugler de notre but. Notre but n'est pas de remplir une église. Notre but est de servir Christ. L'église peut se remplir. Et c'est un peu à l'inverse quand on va prendre Jonas, qu'on va regarder comment Dieu agit. Et comment l'homme agit? Comment, quelquefois, l'homme travaille de façon contre-productive? Je vais vous faire une longue, longue, longue lecture pour commencer. Et après ça, on va la morceler comme je fais le lundi. On y va, vous êtes prêts? Jonas, chapitre 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? » Un interrogatoire serré, là. Il leur répondit, « Je suis hébreu. Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient. Ils l'ont pas jeté tout de suite dans la mer. Ils étaient miséricorde. Ils ont essayé encore de s'en sortir. Le prochain verset nous l'enseigne bien. Ces hommes, verset 13, ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors, ils invoquèrent l'Éternel. Après avoir essayé, ça ne fonctionnait pas. Ils invoquèrent l'Éternel et ils disaient, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. » Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Et ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. On va le prendre morcelé, mais juste pour englober bien la chose, regardons qui est Jonas. Jonas, à qui est adressée la consigne d'aller à Nénive, Jonas, il est fils d'Amittai. Donc, on nous donne, il est fils de qui? Pourquoi je vous dis ces choses-là? Parce qu'on va regarder un peu le personnage, pour commencer, à travers la lecture que nous avons faite. On va regarder certaines choses et un peu les réactions. Jonas va dans la cale du bateau, va dormir. Eux se demandent qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'il est le seul à pas se soucier. Mais en fait, c'est ce que j'appelle, ce qu'on appelle en psychologie des gens qui se réfugient dans le sommeil. Il s'en va dans le sommeil. Et ces hommes-là vont le voir, vont dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il va leur dire quoi faire. Il va dire, jetez-moi dans la mer. Jetez-moi dans la mer. Le monsieur, vous allez voir, il est vraiment têtu. Je sais que vous et moi, on n'est pas têtu, là. Je sais qu'on est tous très souples dans la main de Dieu. Mais Jonas ne l'était pas. Donc, il est têtu et au lieu de se repentir, il se fait jeter dans la mer. Eux vont avoir une leçon, les gens du navire. La leçon, c'est qu'ils vont voir qui est Dieu à travers les éléments. Et le verset nous dit... verset 16, « Et ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, pas n'importe quelle crainte, d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice et firent des vœux. » Donc, même sa désobéissance produit quelque chose. D'accord? On regarde maintenant le personnage. On tombe dans 2 Rois, chapitre 14, verset 25. Je vais faire vraiment toute notre mise en place ce soir. Du moins, je vais tenter de la faire toute ce soir. Deux Rois, chapitre 14, verset 25, nous dit « Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas. » Par son serviteur Jonas, le prophète, fils de qui? D'Amathaï. Donc, on va situer Jonas à partir de deux rois. La parole de Dieu nous dit quoi, en fait? Que le roi d'Israël a pu faire de l'expansion du royaume. Donc, c'était un temps favorable. C'était pas un temps serré, c'était un temps favorable. Tout ça sur la parole de Jonas. Parce que le texte nous dit, il rétablit les limites. Ça veut dire qu'Israël avait perdu ces limites-là aux mains des adversaires. Et sur la parole de l'Éternel donnée par Jonas le prophète, qu'on vient de prendre là, le roi obéit et le territoire reprend ses limites. Par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amathaï, de Gath-Hépher. Donc, on sait où il habitait aussi, à Gath-Hépher, qui nous parle d'un endroit qui est, en fait, au nord d'Israël, un peu plus loin que la Galilée. Quelques rappels que je vous fais, et ça sera court, je sais que les gens n'aiment pas l'histoire, pour du moins pour la majorité. Jonas est qui, en fait? Est un des premiers prophètes d'Israël qui avait eu, si vous voulez, Élisée, et suivant ça, après le prophète Abdias, on pense qu'il se situe entre Abdias et Joël, mais admettons qu'il serait après Joël, il est dans un temps particulier. Il est dans un temps particulier et il a reçu une révélation particulière que livré au roi d'Israël, il est reconnu pour prophète, le roi d'Israël l'écoute et a du succès dans son entreprise. Ceci étant dit, notre homme, pour faire quelques rappels rapidement, quelques rappels historiques, notre homme, environ en 1045-1043 avant Jésus-Christ, Dieu avait trouvé un homme, Saül, pour qu'il devienne roi d'Israël. Saül a fauté et est devenu orgueilleux. Dieu l'a repris en lui disant, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, je t'ai mis en tête du peuple et voilà ce que tu es devenu. » Tu es devenu, et je vous le paraphrase, inutilisable. Dieu l'a écarté et a choisi un homme selon son cœur. Pourquoi je vous dis ces choses-là? Dans la généalogie de Jésus qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, vous allez voir tout de même certaines choses. Après David vient Salomon. Salomon va se corrompre et je fais très rapidement là. Malgré sa sagesse, va s'aliéner un peu par ses comportements avec ses diverses concubines. Va s'aliéner un peu le plan de Dieu. En tout cas, dans sa vieillesse, et il y a un schisme avec son fils à Salomon. Il y a le royaume du Nord, puis il y a Juda. Et c'est dans ce contexte-là, après la séparation, où on trouve deux rois, 14-25, que je viens de vous lire. Dieu le faisait non à cause des mérites d'Israël, mais lors de cette guerre-là, Dieu a humilié la Syrie, ou Damas qui est appelé là-dedans. Le Seigneur délivre son peuple et Jonas livre la marchandise, c'est-à-dire donne la prophétie. Il y a plusieurs choses que je vous saute ici, que j'avais écrit un peu là pour mes informations personnelles. Le texte que je vais vous donner là tout au long, moi-même, je l'ai puisé et je l'ai retravaillé parce que je trouvais riche qu'est-ce qui avait été donné. C'est sûr que j'ai fait beaucoup d'ajouts dans le sens, pas d'ajouts du texte de la Bible, mais de l'auteur que j'étais en train de lire. Mais par contre, il y avait des choses très riches qui pouvaient nous montrer certaines choses, dont cette partie-ci qui était Jonas. Donc, il ne faut pas penser que Jonas était un obscur prophète qu'on ne connaît pas et que tout à coup, il a paru. On en a à certains points de l'Écriture, dont celui-ci que j'ai pris avec vous, où on nous montre que Jonas avait donné une parole très favorable et Dieu va se servir de lui après le schisme qu'il y a eu après le fils de Salomon. Où que lui savait encore moins conduire le peuple. Les jeunes gens ont été le voir et je vous passe l'histoire. Là, il a été dur, il n'a pas écouté les sages qui étaient avec son père, il a écouté les jeunes gens qui avaient été élevés avec lui et il a donné une parole dure et il y a eu un schisme dans le peuple. Ceci étant dit, vous tournez dans Genèse, chapitre 10. Je vous fais encore une lecture. Maintenant, on va regarder, on a vu qui était Jonas, les circonstances, c'était vraiment un prophète. J'ai fait très, très rapidement avec vous parce que je veux rentrer dans le texte ce soir. Et on a vu aussi que Jonas, par sa prophétie, avait amené, naturellement par la parole de Dieu, avait amené une victoire. Maintenant, quand Dieu lui dit au verset 2, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Qui était Ninive? Ninive a été fondée après le déluge par Nimrod, fils de Cush, fils de Cam, fils de Noé. Genèse, chapitre 10, verset 8, Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, il régna d'abord sur Babel, une autre ville, Érech, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Réhoboth, Ir et Kalash. Donc, Ninive a des racines profondes. On a regardé qui était l'homme, dans quelles circonstances il va être amené à faire sa prophétie. Maintenant, à qui il va faire sa prophétie? Et j'en ai passé beaucoup, là, mais je vous ai donné le cœur, si vous voulez, de cela. Donc, Ninive, elle était bien établie. Ninive avait eu le temps de développer certaines choses. Nimrod n'a pas été le meilleur roi régnant sur la terre. Et il y en a découlé certaines pratiques dans Ninive. Certaines pratiques qui ont eu lieu notamment à Babel, que vous connaissez mieux, à Akkad, et à Ninive. Ils ont fait des fouilles archéologiques, ils ont trouvé certaines choses. Ninive comptait près, en tout, avec ses banlieues, 600 000 habitants environ. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans le chapitre 4 et le verset 11 du livre de Jonas. Et sans tout compter, sans vous donner tout, Ninive, c'était l'autre grande ville après Babylone. C'était l'autre grande ville après Babylone. Et il y avait, comme Babylone était la capitale de la Babylonie, il y avait, si vous voulez, un peu une compétition entre les deux. Ninive était aussi une ville où il se passait vraiment beaucoup de choses. C'était aussi un cauchemar, Ninive, pour les peuples. C'est comme, et là je vais vous ramener un peu à Jonas. C'est comme si dans la pleine Shoah, où les Juifs se faisaient exterminer à la pelle, que quelqu'un aurait pris un Juif, l'aurait envoyé, puis aurait dit, va en Allemagne, va dire à Hitler et à ses commandants, à ses chefs, que je vais agir, que je vais prendre en compte tout ce qu'ils font. Eh bien, je ne crois pas qu'aucun juif ait été chaud à y aller. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, il faut faire attention de ne pas juger rapidement notre homme, Jonas, parce qu'il n'était pas en terre bienvenue. Je vais vous dire un peu, Ninive, elle, c'était la capitale de l'Assyrie, pas l'Assyrie, mais l'Assyrie. Et Ninive, c'était le Berlin de ce temps-là, si vous voulez, l'Allemagne de ce temps-là, comme l'Allemagne a été l'Allemagne nazie du temps d'Hitler. Les Assyriens étaient un peuple discipliné, mais cruel, barbare. Vous allez comprendre. Ils étaient cruels, barbares, et faisaient souvent des fêtes, des célébrations. La ville était de grande taille, de type sémite, c'est-à-dire le peuple barbe, chevelure noire abondante. Et il y avait un passe-temps favori, eux, la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils amassaient des richesses par la guerre. Le roi était à la fois roi et prêtre, souvent un despote implacable. Il tolérait d'ailleurs aucune religion autre que la sienne. Il menait des campagnes militaires très violentes. Les soldats étaient des conscrits et des mercenaires, des peuples conquis. Il prenait les meilleurs et il en faisait des soldats, des mercenaires. Les hordes de soldats, pour le temps, étaient puissamment armées. Et pendant que les rois se succédaient, ils amélioraient leur tactique de guerre. Et quand ils capturaient du butin pour être sûr de certaines choses, ils n'étaient pas très, très tendres envers les peuples conquis qu'ils avaient conquis. Les récits de guerre assyriennes sont très durs à regarder, à lire. La cruauté de ces hommes-là était légendaire. Et Jonas n'était pas exempt de savoir ces choses-là. Et je ne vous donnerai pas le pire, je vais vous en donner quelques-uns. Il aimait bien couper les têtes de leurs victimes puis faire des monceaux aux deux côtés des portes de la ville avant de s'enfuir avec le butin pour être sûr de ne pas être poursuivi. Il empilait les têtes en pyramide pour s'amuser. Et souvent, il assiégeait des villes et il se servait de décors comme projectiles. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les hommes étaient parfois empalés vivants. Je vous ai exposé, j'ai pas tout pris là, légèrement ces choses-là pour que vous compreniez maintenant dans quel contexte Jonas s'en allait donner une parole. On a regardé qui était Jonas. On a regardé Jonas où il allait, Ninive. On va se rendre encore un peu plus loin. On va mieux comprendre un peu sa mentalité, même si Jonas va dire plus tard, « Je savais que tu es un Dieu miséricordieux et c'est ce que je voulais éviter. » En fait, il voulait que les Assyriens, il voulait que Dieu les zigouille. Soyons clairs, là. Mais quand même, il doit avoir eu une certaine crainte de la part de Jonas d'aller prêcher, d'aller donner la parole. On comprend mieux avec ce que je vous ai dit là pourquoi Dieu dit « Sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » La méchanceté d'une personne, d'un peuple, d'une génération, faut pas penser, croire que ce qui se passe ici sur la terre, Dieu dans le ciel, il n'y en a pas connaissance. C'est ce qui me fait dire, des fois, je me demande, Dieu est juste juge, quelle sera en tant que génération, quel sera le regard de Dieu sur cette génération-ci. Donc, la méchanceté est montée jusqu'à moi et Dieu dit, je vais faire une action. Genèse, chapitre 6, verset 5. J'ai terminé, j'ai quasiment terminé mon entrée en matière. Genèse, chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc, on a ça dans Genèse. On l'a pour ce qui est des grandes villes de la plaine où Lot habitait, Sodome et Gomorre, où Dieu dit, le cri de Sodome et Gomorre est monté jusqu'à moi. On l'a ici dans la Genèse, où Dieu voit l'entièreté. Donc, il ne faut pas croire ou penser que ce qui se passe sur la terre, notre Dieu ne s'en occupe pas. Notre Dieu use de patience, que la parole de Dieu nous dit, afin qu'aucun ne se perde. Et on va trouver ça dans Genèse 11:5, dans Genèse 18:21. Je le donne juste pour ceux qui veulent. Où on va voir que Dieu agit après un temps donné de patience sans repentir. D'accord? Donc, c'est dans ce créneau-là que s'inscrit le livre de Jonas. Comme le livre de Jonas s'inscrit là, Jonas connaissait la pensée de Dieu sur le péché, mais connaissait aussi la miséricorde de Dieu. Et vous allez voir, c'est à la fois l'un et à la fois l'autre. C'est un peuple qu'il craignait, mais aussi, il ne voulait pas de pardon pour eux. Et la question est de se poser. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, il ne connaissait pas la personne personnellement, là, mais il a entendu un homme qui avait commis plusieurs actes criminels, infâmes, qui étaient dans le journal, puis il a dit, un homme de même ne mérite pas le salut, en me montrant. Et je lui dis, mais personne ne mérite le salut. Il dit, un homme, il s'est repris, un homme comme ça ne devrait pas être sauvé. Mais j'ai dit, personne de nous devrait être sauvé. Mais il essayait de me faire comprendre, oui, mais lui, il a fait quelque chose, c'est un ci et un ça, on s'entend bien, il a fait quelque chose d'extrêmement grave. Comme si on pouvait quantifier nos désobéissances. C'est sûr que, du point de vue humain, il y a des choses qui sont plus graves que d'autres. D'ailleurs, la Bible traite certaines choses de façon différente que d'autres. Hein, nous dit, exemple, tout péché que peut commettre un homme, c'est hors de son corps, mais pas celui de la chair. Fornication, adultère, ça, il traite autrement. Mais ça veut dire, est-ce que ça veut dire que l'un et l'autre est moins condamnable? Les deux sont condamnables. Donc, il faut regarder la chose du point de vue de Dieu. Et à ce point de vue-là, eh bien, comme eux ont eu leur temps, Genèse, qu'on parle de Babylone, qu'on parle de Sodome et Gomorre, qu'on parle du déluge, il y a un temps aussi réservé pour notre époque, qui se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 6, verset 17, où la parole de Dieu nous dit, et je vous le lis directement là, de cette façon-là, le grand jour de la colère, vous avez vu de la colère de l'agneau, est venu. Et qui peut subsister? Il est en train de parler de l'agneau qui est sur le trône, juste avant. Et qui peut subsister? Il va avoir un temps où Dieu va juger le monde. Et ça ne sera pas injuste. Parce qu'il va avoir donné beaucoup de temps. Il va avoir été très patient pour la repentance. Tournez dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Je suis content, je vais m'en avoir rendu jusqu'à où je voulais aujourd'hui. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est pour ça que Dieu tolère. C'est pour ça que Dieu est patient. Pourquoi je vous donne un peu ces paramètres-là? Parce que c'est ce qui va se passer lors de notre lecture dans le livre de Jonas. Mon monsieur avec qui j'étais, qui me disait, cette personne-là ne mérite pas d'être sauvée. Et je disais, mais personne ne mérite. Et là, il rajoutait, oui, mais je disais, mais personne. Cet homme-là pensait tout simplement qu'il y a des petits péchés que, pour lesquels Christ ne sera pas mort. Christ est mort pour le plus petit péché à aller jusqu'au plus grand péché. Et par ton plus petit péché sans Christ, tu n'aurais pas eu de salut. Même par ton plus petit péché. Parce que le péché, ça ne rentre pas dans la présence de Dieu. Donc, il fallait que Christ meure pour ton plus petit péché comme pour le plus grand péché. Et ça a été l'erreur aussi, jusqu'à un certain point de Jonas. Il a dit, eux, je sais que vous, vous ne le faites pas, Jonas le fait. Eux ne méritent pas. Est-ce que vous comprenez? À mesure qu'on va avancer, vous allez comprendre ce que je vous ai donné là comme paramètre. Eux ne le méritent pas. C'est ce que Jonas a dit. Je sais que vous, vous ne l'auriez jamais fait, mais lui, il le fait. Dieu est patient. Ce qu'il souhaite, c'est que toute cette génération-là parvienne à la connaissance du salut. J'en reviens à mon monsieur sur Internet qui a dit, « Hey, il en a fumé du bon, lui, en écoutant ce que je disais. » Cet homme-là parlait dans son ignorance. Est-ce que vous comprenez? Parlait dans son ignorance. Il n'y a rien. Quand ma femme m'a montré le texte, la première chose que j'ai fait, j'ai prié pour cet homme-là, ne sachant pas qui il est. Cet homme-là ou cette femme-là, ma femme m'a dit que c'est un nom masculin. Et j'ai dit, mais Seigneur, ouvre ses yeux. J'aurais pu le prendre personnel, puis dire, ouais, il va voir en fin des temps, M. Tartampion, si c'est lui qui en a fumé du bon ou si c'est moi. Est-ce que vous comprenez? J'aurais pu avoir cette attitude-là. Et je ne vous dis pas que quelquefois, ah oui, on va le dire là, que quelquefois, nous ne sommes pas tentés de le faire. Avec un patron, avec un compagnon de travail, avec des gens qui nous ont fait des choses. Allez, quelquefois, on jette des gens dans notre petite prison personnelle. On prend la clé, on barre. Et puis une fois de temps en temps, on sort la clé et on dit, lui, là, aimez lui, là. Puis on met la clé dans nos poches. Vous ne l'avez pas fait, vous. Mais Jonas le fait. Là, on s'est dit, eux autres ne méritent pas ça. Donc, on n'y va pas. Et vous allez voir, quand je vais rentrer dans la trame de la chose, vous allez comprendre. Notre Dieu veut pardonner le péché. Et c'est avec ça que je vais terminer aujourd'hui. Veut pardonner le péché. On devrait s'émerveiller devant la compassion de Dieu quand Dieu regarde nos voisins, nos collègues de travail, celui que tu aimes bien, celui que tu aimes moins, celui que tu n'aimes pas, et que le Seigneur use de patience pour qu'il ait le temps d'atteindre le salut comme toi et moi, de comprendre le salut comme toi et moi. Un jour, il n'y aura plus de temps. Les vannes de la patience de Dieu vont être fermées et on va ouvrir une période de jugement. Mais si l'on juge nous-mêmes, si on prend sur nous de juger nous-mêmes, sachez-le bien, la parole de Dieu nous dit que la vengeance, la rétribution, c'est lui qui fait ça. C'est pas nous. La parole de Dieu va aller jusqu'à dire, l'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. C'est dans Corinthiens. Juge de tout. On ne parle pas de juger les gens, là. J'expliquais lundi, je mets 20$ ici, on est juste deux dans la salle, mon 20$ disparaît. J'enverrai pas mon frère ou ma soeur en enfer, il me prie 20$ en enfer, mais je peux dire quelque chose, par exemple. La chose que fait est malhonnête. Est-ce que vous comprenez? C'est la différence qu'il y a. La compassion de Dieu, pour l'instant, est quelque chose que Dieu veut appliquer, que le Seigneur veut étendre large sur le peuple. Tant que le peuple rejette, naturellement, nous ne sommes pas des petits robots, l'homme ne peut pas recevoir. Mais Dieu attend. Attends. Prends patience. Soyons patients. Est-ce que vous manquez de patience? Soyons patients. Dieu attend. Dieu t'a attendu, toi. Il m'a attendu, moi. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui que Dieu m'a attendu. Eh bien, ayons un peu plus de patience. Donc, Dieu dit à Jonas, « Va dans la ville nazie et tu vas aller proclamer un message. » Mais Jonas, on va regarder dans ma prochaine intervention le refus un peu plus profond du prophète à partir du verset 3. Pour l'instant, il est 8 heures, on a terminé. Et d'intervention en intervention, là, je vous ai mis la table, si vous voulez. Je vous ai montré un peu dans quel contexte les choses étaient, qui était Jonas, qui étaient les Ninivites, pour vous donner une idée. Et quand on va rentrer dans le texte, j'espère que vous allez vous souvenir de cela et que ça va vous donner une meilleure compréhension de la trame qui s'est jouée. Et donc, à ma prochaine intervention, nous allons entrer directement dans la trame. Pour l'instant, nous avons pris notre temps. On va se lever. On va prier avant de rentrer à la maison. Je sais que c'était peut-être la partie la moins intéressante parce qu'il y avait un peu d'histoire et je vous mettais un peu les choses en place. Mais j'ai l'intime conviction que ça va être utile pour le restant de notre apprentissage du livre de Jonas. Donc, Seigneur, j'ai pris un temps pour expliquer avec les bien-aimés, pour regarder certains pans de certaines vérités auxquelles Jonas, les Ninivites, et par rebond, nous devons faire face dans notre époque comme lieu de faire face dans son époque. Seigneur, apprends-nous à bien réfléchir, à ne pas tirer rapidement trop de conclusions, mais à laisser la richesse du texte nous parler. Seigneur, j'ai livré, Seigneur, ce que je crois utile pour ton peuple, mais je ne suis qu'un homme. Fais croître ce qu'ils ont reçu. Seigneur, je remets ton peuple entre tes mains, raccompagne ceux qui sont ici en présentiel, garde ton peuple, Seigneur. Ceux qui vont écouter le message, donne-leur un esprit de révélation dans ta parole et qu'on puisse, Seigneur, s'enrichir par cette lecture, par cet apprentissage. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et à ma prochaine intervention, on va entrer plus approfondi, on va regarder le refus de Jonas. Soyez bénis.